ce cocon de livres qui va nous protéger du mauvais temps ambiant, enfin qui est sur la France actuellement. Et puis nous partons, vous savez, ce matin pour un voyage au du soleil en Grèce, et avec donc la récitation de l'Odyssée par Bruno Lassalle. Donc cette manifestation s'appelle cette année l'Université d'été. L'année dernière, c'était l'histoire d'amour entre un conteur et son conte, donc qui avait occupé aussi les quatre premières matinées de l'EPOS 2011. Et cette année, c'est aussi une grande et une longue histoire d'amour entre un conteur, de la salle, et l'Odyssée d'Homère, qu'il raconte depuis maintenant longtemps, qu'il nous racontera. Donc chaque matinée, en fait, de l'Université d'été sera consacrée à une partie de l'Odyssée, donc en quatre parties, donc quatre matinées jusqu'à jeudi. Une petite pause ensuite, et enfin Jean-Louis Baquès, pardon, professeur à l'Université de Paris-Sorbonne, nous fera son commentaire et pourra aborder toutes les questions qui se trouvent autour de ce texte, autour de l'auteur, autour de la récitation même de ce texte, selon quel rythme. Et toutes les questions sur les dieux, sur la place de l'homme dans la création. Et la deuxième partie de la matinée sera consacrée donc à une étude de chaque partie par Jean-Louis Baquès. Donc nous voulons remercier la bibliothécaire de ce lieu de nous prêter pour la première fois ce bel endroit pour cette récitation, et puis remercier aussi le livre au centre avec Madame Cécile Caillou-Robert qui nous fait le plaisir d'être là, et qui vont donc, un enregistrement de ces quatre matinées aura lieu et sera ensuite on pourra l'écouter donc sur les ondes de livres au centre.
Arte Radio.
Sur le petit livret de EPOS 2011, vous avez toutes les données pour vous connecter à ce site. Voilà, je laisse la parole à Bruno. Thank you.
dans les cités de Tantôme. Celui qui sur les mers passa par tant de peur. Il ne ramena pas ses gens, son équipage, malgré tous ses exploits, malgré tous ses efforts. Ils ne doivent leur mort qu'à leur propre sottise. Ces fous qui du soleil avaient mangé les bœufs. De la guerre et des flots. Il n'en restait plus qu'un à toujours désirer le retour et sa femme. Car une nymphe auguste le retenait au creux de ses cavernes. Calypso, cette toute divine, elle rêvait de l'avoir pour époux. Même quand va l'année du cycle révolu, même dans son Ithaque et dans les bras des siens, il n'allait pas trouver la fin de ses malheurs. Tous les dieux le plaignaient, sauf un. Poséidon, dont la haine traqua cet Ulysse divin jusqu'à son arrivée à la terre natale. Or, le dieu s'en alla chez les nègres lointains, sur leur double domaine. Il vivait dans la joie, au milieu des festins. Mais tous les autres dieux tenaient leur assemblée dans le manoir de Zeus. Devant eux, le seigneur de l'Olympe venait de prendre la parole. Écoutez les mortels mettre en cause les dieux. C'est de
de ce lot. Un sage qui gémit sur une île lointaine, c'est Calypso la fée qui le tient prisonnier. Sans cesse en litanie de douceurs amoureuses, elle veut lui verser l'oubli de son Ithaque. Et lui qui ne voudrait que voir monter un jour les fumées de sa terre, il appelle la mort et cependant, Seigneur, ton cœur ne s'aime pas. Ne fut-il pas un temps qu'Ulysse et ses offrandes trouvaient grâce à tes yeux dans la plaine de Troie? Pourquoi cette rancune aujourd'hui contre lui? Zeus lui répond alors.
Non, ce n'est pas de moi que lui vient son malheur, mais c'est Poséidon qui veut venger son fils, le divin Polyphème, que l'homme a aveuglé. De ce jour, l'ébranleur de la terre, sans maître Ulysse à mort, l'éloigne de son île. Nous allons tous ici, décrétons son retour. Poséidon n'aura plus qu'à brider sa colère, ne pouvant tenir tête à tous les immortels, ni lutter à lui seul contre leur volonté. Le décret était pris, et déjà la déesse, enfilant ses sandales, s'en allait en plongeur des cimes de l'Olympe, prendre terre en Ithaque. Elle venait chercher Télémaque, le fils chéri de son Ulysse, pour le mettre à l'abri des prétendants jaloux. Hermès, le messager, s'en allait à son tour. Déjà, comme le vent, il glissait sur les flots, pareil au goéland qui chasse le poisson. Il s'en allait là-bas, à l'autre bout du monde, dans la haute caverne où la nymphe bouclée avait fait sa demeure, loin de toute cité. Et dès qu'il apparut, elle le reconnut. Jamais deux immortels ne peuvent s'ignorer aussi loin que l'un d'eux puisse habiter de l'autre. Tu viens chez nous, Hermès, et pour quelle raison ? Pourquoi je suis venu, moi, Dieu, chez toi, déesse, je m'en vais te le dire. Il paraît qu'un mortel est ici près de toi. Aujourd'hui, sans retard, il faut le renvoyer, car son destin n'est pas de mourir en cette île. À ces mots, un frisson secoua la déesse, et élevant la voix, elle dit ces paroles. Que vous faites pitié, Dieu jalouse entre tous. Ô vous qui refusez aux déesses le droit de prendre pour époux au grand jour dans leur lit le mortel que leur cœur a choisi pour compagnon de vie. De son éclair livide, Zeus avait foudroyé et fendu son navire en pleine mer vineuse. C'est moi qui l'accueillis, le nourris, lui promis de le rendre immortel et jeune à tout jamais. Mais il n'est que trop vrai quand Zeus a décidé. Quel moyen pour un dieu de marcher à l'encontre ou de se dérober ? Qu'il parte, puisque c'est le décret. Elle disait, mais déjà le dieu au rayon clair, Hermès le messager s'en était retourné. Calypso s'en alla vers son grand cœur d'Ulysse. Quand elle le trouva, il était sur le cap, perdant la douce vie à pleurer le retour. C'est qu'il ne goûtait plus les charmes de la nymphe. La nuit, il fallait bien qu'il rentrât auprès d'elle. Il n'aurait pas voulu, c'est elle qui voulait. Debout à ses côtés, elle prit la parole. Je ne veux plus qu'ici, pauvre ami, dans les larmes, tu consumes tes jours, que tu perdes la vie. Abats de longues poutres, unis-les pour bâtir le plancher d'un radeau qui puisse te porter sur la brume des mers. Moi, quand j'aurai porté l'eau, le pain, le vin rouge, je te ferai souffler une brise d'Ariel qui te ramènera sain et sauf au pays. S'il plaît aux immortels, maître des champs du ciel, ils peuvent mieux que moi décider et parfait. C'est ce qu'elle disait. Il soupçonnait un piège, un moyen de le faire disparaître à jamais dans le gouffre des mers. Il voulait une preuve. Elle se prit à sourire. Quel brigand il faisait. Alors elle jura le grand serment des dieux de n'avoir contre lui aucun mauvais dessein. Elle lui apporta une hache de bronze, aux joues bien affûtées et pourvue d'un bon manche, une tauloire polie, tout un jeu de tarière. Puis passant devant lui, Calypso l'emmena à la pointe de l'île, là où de hauts sapins, aunes et peupliers avaient poussé jadis
tout sexe et tout léger, il flotterait à souhait. Elle les lui montra, puis la toute divine regagna son logis. Dès qu'il eut fait son choix, il se mit à l'ouvrage. Il abattit 20 arbres, que sa hache écarrie, qu'en maître plana et dressa au cordeau. Puis il traça, perça et ajusta ses poutres. Les unit l'une à l'autre au moyen de goujons qu'à grands coups de marteau il fit rentrer à force. Les longueurs et largeurs qu'au plein vaisseau de charge donne le constructeur qui connaît son métier, Ulysse les donna au plancher du radeau. Il dressa le gaillard, il en fit le bordage de poutrelles serrées qu'il couvrit pour finir de voliges en long et d'osier sur les bords. Il y planta le mât emmanché de sa vergue en poupille, adapta la barre à gouverner, il lesta le plancher d'une charge de bois. Enfin, il sut encore tailler de belles voiles fixées, drisser à linguer, amarrer les coudes enfin sur des rouleaux, mettre l'esquive à flot. Au bout de 4 jours, tout était terminé. Après l'avoir baigné, parfumé, habillé, Calypso le 5e le renvoya de l'île. Elle avait mis à bord une outre de vin noir, une plus grande d'eau et dans un sac de cuir. Des vivres pour apaiser la faim. Puis elle fit souffler la plus douce des brises. Avant de tout repos, bien propice au voyage, plein de joie, Ulysse avait ouvert ses voiles. Assis près de la barre, en maître, il gouvernait, sans qu'un somme jamais tombât sur ses paupières. Regardant sans arrêt les étoiles brillantes, le Bouvier qui se couche si tard, les Pléiades et celle qu'on appelle l'ours ou le chariot, qui jamais ne se couche mais tourne en même place. La vie de Calypso, cette toute divine, était de naviguer en gardant toujours l'ours à gauche de la main. 17 jours il vogua sur les routes du large. Le 18e enfin, il revoyait la terre, apparaissait à lui. Les mondes faits assis. Sur les routes du large. Le 18e enfin, il revoyait la terre. Apparaissaient à lui les mondes faits assis. Hors du pays des Noirs, Posidon remontait. Du haut du mont Solyme, il découvrait le large. Ulysse apparaissait voguant sur son radeau. La colère du dieu s'éleva en son cœur, et frappant de sa tête et de son sceptre, secouant la tête, il se disait en lui-même: oh misère, voilà que pendant mon absence, les dieux pour cet Ulysse ont changé leur décret, et le destin l'enlève à sa charge de maux. Je dis qu'il me reste à lui jeter encore sa charge de malheur. Aussitôt vers le ciel, élevant son trident, il rassembla les nues, et des vents de toute terre déchaîna les rafales. Ensemble s'abattirent le Rhos et le Notos et le Zéphyr hurlant.
poussée par le boré qui s'en vient de l'azur, roula la grande houle. Ulysse alors, voyant s'assembler autour de lui l'orage, sentit se dérober ses genoux et son cœur, il gémit dans son âme. Malheureux que je suis, elle m'avait prédit, Calypso, la déesse, le voici qui m'advient. À peine avait-il dit qu'un grand flot le frappa. L'esquif se retourna et la fureur des vents emporta voile et vergues. Ulysse alors resta longtemps englouti sous les flots. Enfin il émergea et voyant son radeau d'un élan s'y hissa et s'assit au milieu. Vents chauds de l'automne emportent dans la plaine les chardons emmêlés en paquets poussiéreux. C'est ainsi que les vents emportaient le radeau. Mais Ino l'aperçut, la fille de Cadmos, qui jadis simple femme et douée de la voix, devint au fond des mers immortelle déesse. Elle prit en pitié l'angoisse du héros, alors sortant de l'onde sous forme de mouette, sur le bord du radeau, elle se pose et dit: Posidon a juré de t'accabler de mots, mais il faut que tu saches que malgré son désir, il ne peut t'achever. Prends ce voile divin, tends-le sur ta poitrine, tu ne craindras plus rien. Jette-toi à la nage pour atteindre la rive où t'attend le salut. Elle lui donna le voile et puis se replongeant dans le flot, elle disparut. Ulysse réfléchissait. C'est un piège nouveau que me tend l'un des dieux. Non, non, je ne veux pas lui obéir encore. Mes yeux n'ont aperçu que de trop loin la terre. Tant que mes bois tiendront, je resterai dessus. Mais si la mer les brise, je me jette à la nage. Il ne me restera rien de mieux comme espoir. Il hésitait encore quand l'ébranleur du sol souleva contre lui une terrible lame. La voûte de la vague vint lui crouler dessus. Sur la paille entassée, quand se rue la bourrasque, la meule s'éparpille aux quatre coins du champ. C'est ainsi que la mer se mêle les longues poutres. Ulysse alors grimpa sur un reste d'épave, sur sa poitrine en hâte, il étendit le voile et la tête en avant se jeta dans les flots. Athéna eut alors son dessein. Barrant la route au vent, cette fille de Zeus leur commanda à tous la trêve et le sommeil.
Durant 2 jours, 2 nuits, Ulysse dériva. Que de fois en son cœur il crut voir venir la mort, mais au 3e jour, soudain le vent tomba. Du sommet d'un grand flot qu'il avait soulevé, il pouvait voir la terre. Son regard la fouillait. Il nageait, s'élançait pour aller prendre pied. Il n'était déjà plus qu'à portée de la voix. Il perçut le ressac qui tonnait sur les roches. La grosse mer tonnait sur les sèches du bord. Tout était recouvert de l'embrun des écumes. Rien que des caps pointant leurs rocs et leurs écueils. Ulysse alors sentit se dérober ses genoux et son cœur. Il gémit dans son âme. Hélas, voici la terre. Mais ce n'est que rocher et flot tumultueux. La côte est un pic de roches dénudées, partout la mer sans fond, nulle part un endroit où planter mes 2 pieds pour éviter la mort. Un coup de mer le jette à la roche d'un cap. Il aurait eu la peau trouée, les os rompus sans lit des caténas lui met alors en tête. D'un élan des 2 mains, il se colle au rocher, laisse passer la vague, mais le flot, au retour, le remporta au large. À force de nager, il reconnut un fleuve aux belles eaux courantes. La rive était sans roche, abritée de tout vent. Ulysse l'implora. Je viens à toi, Seigneur, que j'ai si souvent appelé pour fuir hors de ces flots Posidon et sa rage. Je viens à ton courant, je viens à tes genoux, accueillons ta pitié et ta miséricorde, Seigneur le suppliant qui de toi se réclame. Le fleuve l'entendit, il retint son courant, laissa tomber sa barre et rabattant sa vague, lui offrit le salut. Les 2 genoux d'Ulysse et ses vaillantes mains ne pouvaient le tenir. Il tomba sur le sol tout près de défaillir sous l'horrible fatigue. Puis il reprit haleine. Alors de sa poitrine, il détacha le voile et tout de suite Ino dans ses mains le reçut. Puis il embrassa la terre nourricière et se mit à songer. Allait-il rester là dans le froid de la nuit ou trouver un abri? Au sommet de la crête, un olivier greffé et un olivier franc, issus du même tronc, assemblaient leur feuillage. Sous l'arbre s'entassaient des feuilles en couches épaisses. À la vue de ce lit, quelle joie l'envahit. Il se glissa dessous et il s'en recouvrit. Au fond de la campagne, quand on est sans voisin, on cache le tison sous une épaisse cendre, afin de préserver la semence du feu. ainsi qu'il dormait. Le héros d'endurance. L'écrasante fatigue. Cependant, Athéna, poursuivant son dessein, allait vers Nausicaa, la fille d'Alcinous, seigneur de Phéacie, lui dire son message. Comme un souffle de vent, elle s'était glissée jusqu'au lit de la Vierge. Elle avait pris les traits d'une amie de son âge, tendrement aimée d'elle. Nausicaa, la fille sans souci, tu laisses là sans soin tant de linge sali. Ton mariage approche, il faut que tu sois belle et que soient beaux aussi les gens de ton cortège. Voilà qui fait courir les belles renommées. Vite partons laver dès que l'eau peut poindre. Assez beau Athéna aux yeux perdus disparus, regagnant cet Olympe où l'on dit que les dieux, loin de toute secousse, ont leur siège éternel. L'aurore apparaissait et réveillait la Vierge. Étonnée de son rêve, Nausicaa s'en allait le dire à ses parents. Elle les vit tous deux au sortir de la chambre. Son père allait partir quand elle le croisa. Debout à ses côtés, Nausicaa lui dit: Oh cher papa, veux-tu me faire armer le char? Je voudrais emporter tout notre linge sali jusqu'au fleuve. J'en ai tant de sali. Elle ne parlait pas des fêtes de ses noces, le seul mot lui fait rougir devant son père. Essayant de deviner, le roi dit en réponse: Ce n'est pas moi, ma fille, qui vais te refuser, ni les mules, ni rien. Mes gens vont t'apporter la voiture ou autre et mettre les ridelles. À ces mots, il donna les ordres à ses gens qui s'y s'empressaient. On tira la voiture, les mules amenées, on les mit sous le joug. La Vierge alla chercher le linge à nettoyer. Sa mère lui apportait un grand panier de vivres, d'autres mets, des douceurs et une outre de vin. Hein? Alors, la jeune fille monta sur la voiture. Sa mère lui apportait de l'huile pour le bain qu'elle avait oublié, de l'ambre solaire pour elle et ses suivantes. Nausicaa prit le fouet et les rênes luisantes, un coup pour démarrer, et les mules emportèrent le linge et la princesse. Ses femmes la suivaient. On atteignit le fleuve et ses nombreux lavoirs. Une eau claire en sortait à flots de sous les roches, de quoi pouvoir blanchir le linge le plus noir. Les bulles dételées, on les tira du char et les lâchant au long des berges des cascades, on les mit paître l'herbe à la douceur de miel. Les femmes qui prenaient le linge sur le char s'en allaient le porter dans les trous de l'eau sombre et le foulant au pied rivalisait d'efforts. On lava, on rinça tout ce linge sali. On l'étendit en ligne aux endroits de la grève où le flot de la mer laisse le gravier net. Puis l'on se baigna et l'on se frotta d'huile, et tandis que le linge au clair soleil séchait, on se mit au repas sur les berges du fleuve. Quand servantes et maîtresses se furent rassasiées, elles défirent leurs voiles pour jouer au ballon. Nausicaa marquait la mesure de la danse. C'est alors qu'Athéna voulut pour son dessein qu'Ulysse réveillait voir la Vierge charmante. Par mégarde, elle venait de faire tomber la balle au trou d'une cascade. Toutes poussèrent un cri. Ulysse se réveilla, il s'assit et songea. Mais quoi, en quel pays suis-je donc arrivé? J'entends autour de moi des voix fraîches de filles. Il faut tâcher de voir. Et le divin Ulysse émergea des broussailles. Sa forte main cassa un rameau bien feuillu pour se couvrir le corps et se cacher le sexe. Puis il sortit du bois, tel un lion des montagnes poussé par le besoin, tel en sa nudité Ulysse apparaissait à ses filles bouclées. Quand l'horreur de ce corps apparut aux servantes, aussitôt elles s'enfuirent, courant de tous côtés sur les berges du fleuve. La seule Nausicaa restait à faire au front. Athéna lui mettait dans le cœur cette audace et ne permettait pas à ses membres la peur. Ulysse réfléchissait. Irait-il supplier cette vierge charmante et la prendre au genou? Il jugea plus prudent de n'avoir envers elle que de douces prières et paroles lointaines. « Je te supplie, ô reine, es-tu une déesse? Serais-tu Artémis, la fille du grand Zeus, la taille, la beauté, l'allure, c'est bien elle ?» Si tu n'es que mortel, trois fois heureux ton père et ton auguste mère, trois fois heureux tes frères, comme en leur cœur charmé tu dois verser la joie. Et jusqu'au fond du cœur, bienheureux le mortel chez qui tu t'en iras. Mes yeux n'ont jamais vu ton pareil, homme ou femme. Je t'admire et je tremble. J'ai peur de m'approcher, vois mon cruel chagrin. Hier, après 20 jours sur les vagues vides, j'échappais à la mort. Lorsque les dieux enfin m'ont jeté sur vos bords. Est-ce encore pour trouver de nouvelles souffrances? Je n'en vois plus la fin. Ah, reine, prends pitié. La Vierge au beau bras blanc le regarda et dit. Tu sais bien, étranger, que Zeus de son Olympe répartit le bonheur selon sa volonté. S'il t'a donné ces mots, tu n'as qu'à les subir. Mais puisque te voilà aujourd'hui parmi nous, ne crains plus de manquer ni d'habits, ni de rien. Je vais être ton guide pour aller à la ville où se tient le palais de mon père Alcinous, le roi de Phéacie, où tu viens d'aborder. Sur le bord du chemin, nous trouverons un bois, c'est tout près de la ville. Tu t'y arrêteras pour nous laisser rentrer. Viens ensuite à la ville. Demande aux Phéaciens le logis de mon père. C'est facile à trouver. Le plus petit enfant te servira de guide. Mais sitôt à couvert, en ses murs et sa cour, ne perds pas un instant et va droit à ma mère assise près du feu. Ses servantes sont là, installées derrière elle, tandis qu'en son fauteuil, mon père à petits coups boit son vin comme un dieu. Ah, se sent arrêter et va jeter tes bras aux genoux de ma mère. Si tes yeux veulent voir la journée du retour, car son pouvoir est grand. Ayant ainsi parlé, elle enleva les mules, c'était de bonnes bêtes. En vitesse, on quitta la ravine du fleuve. Nausicaa menait sans trop forcer l'allure, pour que ses gens à pied, Ulysse et les suivantes, puissent suivre le char sans souffrir de la route. Au coucher du soleil, ils longèrent le bois, c'est là qu'il les quitta, les laissant rentrer seuls. Sans tarder, il pria Athéna, la déesse. Athéna, Athéna, fille de Zeus, exauce ma prière. Ô toi qui restes sourde aux cris de ma détresse, quand j'étais sous les coups du glorieux Posidon, fais que les Phéaciens m'accueillent en ami et me soient pitoyables. C'est ainsi qu'il priait, Athéna l'entendit. Le char devant le porche. Ses frères l'entourant et dételant les mules avaient pris et porté le linge à la maison. Elle le gagna à sa chambre où sa vieille servante, sa nourrice d'enfance, vint allumer le feu, puis avec diligence lui servir le souper. Ulysse se levait et prenait à son tour le chemin de la ville. Quand il y arriva, Athéna l'attendait. Elle avait pris les traits d'une petite fille, une cruche à la main. Ulysse demanda le chemin du palais. Elle le conduisit à travers les rues, les agoras, le port et les hauts murs. Ulysse la suivait. Que de troubles en son cœur, devant le seuil de bronze, car sous les hauts plafonds du fier Alcinous, c'était comme un éclat de soleil et de lune, du sol jusqu'au plafond et d'une bonne hauteur de murailles de bronze s'en allaient déroulant leurs frises d'émail bleu. Deux portes d'or gardaient la solide maison du fier Alcinous. Les montants sur le seuil de bronze étaient d'argent, et d'argent lui aussi était fait le linteau. Les corbeaux étaient d'or, d'or et d'argent encore, les chiens qu'avait sculpté Héphaïstos le dieu pour garder la maison du fier Alcinous. Ulysse restait là, admirant, mais lorsque dans son cœur il eut tout regardé, vite il franchit le seuil. Il
trouva, coupe en main, les rois de Phéacie qui faisaient leur offrande aux guetteurs rayonnants avant d'aller dormir. Le héros d'endurance alla droit vers la reine et comme il se jetait à ses genoux, soudain, les invités le virent et étonnés se turent. Ô reine magnanime, je viens à ton époux, je viens à tes convives, je viens à tes genoux. Ô reine, prends pitié. Que le ciel vous accorde à tous de vivre heureux et de laisser un jour chacun à vos enfants les biens de vos manoirs et les présents reçus. Mais pour me ramener au pays de mes pères, ne tardez pas un jour. Si longtemps loin des miens, j'ai souffert tant de maux, si longtemps attendu. Ayant ainsi parlé, le héros d'endurance s'assit sur le rebord du foyer dans la cendre. Et là, il attendait, et tous restaient muets. Alors dans le silence, on entendit la voix du vieil Échénéos. Il était le plus vieux, c'est pour le bien de tous qu'il prenait la parole. Il n'est, Antinoos, ni bon ni convenable que l'on laisse ainsi un hôte dans la cendre par terre. S'il est ici, si c'est Zeus qui nous l'envoie, demande de respecter les suppliants, que l'intendant prélève en sa réserve le dîner de notre hôte, il dit, et aussitôt, sa sainteté et force, Alcinoos eut à peine entendu qu'il se leva de table, qu'il vint chercher Ulysse, l'asseoir à ses côtés. Ainsi il était là, le héros d'endurance. Parmi ces Phéaciens, ce peuple de passeurs qui navigue plus vite que l'aile ou la pensée. Cheval de bois creux, introduit dans les murs de la ville de Troie. Le prélude fini, il installait son hymne. Il prit la scène où ceux d'Argos, incendiant leur camp, s'en allaient sur la mer. Prisonner ce grand cheval de bois.
assaillit, les Achéens jaillit du ventre du cheval, et chacun ravage en son coin de ville haute. Et brave comme Arès, Ulysse s'accompagnant le divin Ménélas jusque chez Diophobe, et tous deux affrontant le plus dur des combats. Et tandis que Laëde chantait, Ulysse faiblissait et ses larmes coulaient. À toute l'assistance, il put cacher ses larmes. Seul parmi l'assistance, Alcinous le vit. Se tournant vers Laëde, le roi lui demanda de chanter autre chose pour divertir son hôte. Laëde alors choisit un tout autre sujet, une danse. Les amours contrariés d'Arès et d'Aphrodite, il se mit à chanter. Il disait le soleil qui s'en va raconter au mari courroucé les amants qu'il a vus en pleine œuvre d'amour dans la chambre nuptiale. Il dit Héphaïstos, le mari, pour les non-hellénistes, il dit Héphaïstos, apprenant la nouvelle et courant à sa forge façonner un réseau chaînes affrangies pour prendre les amants. Un chef-d'œuvre se piège. Vraie toile d'araignée, imperceptible à tous, même aux dieux bienheureux, enfin il fit semblant de partir vers les noces. Sitôt qu'Arès le vit s'en aller de chez lui, il prit ses rênes d'or, et le voilà courant tout de feu pour la belle Aphrodite au diadème. Elle rentrait justement du manoir de son père, et venait de s'asseoir. Entrée dans la maison, Arès la caressa de la main et lui dit « Vitolie, ma chérie, quel plaisir de s'aimer, ton mari est parti, il doit être à Lemnos parmi les indigènes ou parler de sauvages. » Il dit et le plaisir d'Ulysse prie la déesse. Mais à peine monté sur le lit et couché, le piège se déploie et leur tombe dessus. Plus moyen de bouger, ni lever bras, ni jambes, ils voyaient maintenant qu'ils ne pouvaient plus fuir et voilà qu'arrivait la gloire des boiteux. Sur le pas de sa porte, avec des cris de fauve, il appelait les dieux. Zeus, le père, et vous tous, immortels bienheureux, arrivez, vous verrez. De quoi rire? Un scandale! Aphrodite ne vit que pour mon déshonneur. Elle aime cet Arès pour la seule raison qu'il a les jambes droites. Si je l'acquise, affirme, ce n'est pas de ma faute. Mais voyez où mes gens font l'amour, c'est dans mon propre lit. J'enrage de les voir. Ah, je crois qu'ils n'ont plus grande envie d'y rester. Mais ils y resteront si l'on ne me rend pas les cadeaux qu'il fallut pour cette chienne de fille. Elle est peut-être belle, mais trop dévergondée. Ainsi parlaient les poupous, tous les dieux accouraient. Les déesses pudiques demeuraient au logis. Et parmi eux montait un rire inextinguible. Seul parmi les convives, Posidon implorait la liberté. Arès, la gloire des boiteux, alors lui répondit, je ne peux ni ne veux douter de ta parole, il dit, et libéra les deux amants. Le couple délivré de ses chaînes pesantes prenait son vol, lui vers la Thrace, elle vers Chypre. Elle allait à Paphos dans son sanctuaire, ses grâces la baignèrent, loignirent d'huile fine qui reluisent sur la peau, puis elles lui passèrent une robe charmante, enchantement des yeux. Puis elles lui passèrent une robe charmante, enchantement des dieux. Voilà ce que chantaient des mots de Coslaët devant tous les seigneurs attablés au festin. Cependant, Achillos, se tournant vers Ulysse, lui dit : Dis-nous, quel est ton nom, et ta ville, et ton peuple ? Conte-nous tes voyages, dis-nous tes aventures. Tous ignoraient le nom jusqu'à ce qu'ils prennent la parole, prenant la place, en quelque sorte, d'aide que lui concède Homère, se met à raconter son histoire, en commençant par le début. Et on peut s'arrêter là, Jean-Louis, c'est comme ça qu'on avait prévu. Quelle heure est-il ? Il est 11h, moins 10. Non, ça va, ça va. Tu veux venir maintenant ? Ou vous avez besoin d'un peu d'air ?
On va faire une petite pause.
D'accord. Eh bien voilà, une petite pause. La pause commence.